Bonsoir à tous, merci d'être restés après l'heure du goûter pour cette seconde session consacrée à un binôme réjouissant, partagé, créé, et que j'ai l'honneur et le grand plaisir d'animer. Nous retrouvons pour cette session trois anciens résidents de l'Institut d'études avancées et deux autres chercheurs, tous les cinq. Je sais, il n'y en a que quatre à la tribune, à mes côtés, mais les esprits sont ici très puissants. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons seulement les fantômes de Théophile Gautier, de Baudelaire, mais aussi des fantômes de chercheurs qui vont conduire aussi nos discussions. Tous ces chercheurs réunis pour cette seconde session viennent d'horizons disciplinaires très variés, ont exploré des domaines variés. Donc Marie-Line Libert est sociologue. Adam Frank, vous êtes un spécialiste de la littérature américaine contemporaine. Nous avons également à nos côtés Sylvaine Guillot, qui nous vient de l'histoire des arts du spectacle, mais aussi qui travaille beaucoup avec le spectacle vivant et la création contemporaine. Cédric Parizeau est anthropologue et inventeur, découvreur, allons savoir, de jeux vidéo. Et puis, nous avons également des esprits économistes qui nous environnent, ici aussi, puisque Vanessa Oltra, qui est malheureusement souffrante aujourd'hui, était donc prévue au programme. Nous évoquerons son travail d'économiste très impliqué dans l'invention de nouvelles formes au croisement du savoir académique et de la création artistique. Tous les cinq, vous avez relevé le même défi, c'est-à-dire sortir des zones de confort et des habitudes de travail académiques, décloisonner les univers de la recherche pour aller travailler avec des artistes et essayer ensemble, dans ce dialogue, entre univers professionnels et créatifs différents, d'élaborer de nouveaux dispositifs de transmission du savoir et de transmission aussi du savoir qui passe par l'émotion, le choc visuel, le choc auditif, on a parlé de la musique tout à l'heure, le choc théâtral et d'autres formes. Puisqu'en effet, dans les formes de restitution variées que vous avez élaborées, vous avez choisi non seulement de dialoguer, d'inventer un dialogue chercheur-artiste, mais aussi de penser continuellement le rapport au public et au public au pluriel. Donc on sort un petit peu de la confrontation du chercheur-artiste pour intégrer le troisième et essentiel larron à cette affaire, le ou les publics. Différentes formes, la déambulation urbaine, la radio, la mise en voix et la mise en scène, le jeu vidéo et des formes aussi de festivals qui passent par la résidence, la co-résidence même, la co-création, la co-procréation peut-être même, hein, entre chercheurs et artistes. Alors, quelques questions vont peut-être... Ah bah oui, tout est possible. Hein. Quelques questions vont, je pense, être transversales à la façon dont vous allez restituer aujourd'hui vos différents parcours de co-création. Qu'attendiez-vous au moment où vous êtes lancé dans cette aventure du décloisonnement, lorsque vous êtes sorti de vos horizons habituels de travail? Comment votre processus de recherche a-t-il été enrichi ou freiné? À quel moment la nécessité de créer un nouveau dispositif s'est-elle imposée? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des artistes qui sont venus vous cherchez, qui ont eu besoin de votre expertise? Frédéric Ferrer, tout à l'heure, laissait entendre que les experts n'étaient pas vraiment des chercheurs. Bon, c'est à débattre, il faut espérer qu'ils le soient quand même un peu. Et puis, ensuite, quid des résultats? Quelle implication du public? Quel impact sur vos travaux désormais? Avez-vous pu valoriser dans vos institutions ce projet créatif? Est-ce que tout a changé désormais dans votre horizon de travail? Bref, quel impact sur vos façons de travailler ou de regarder, de re-regarder vos objets? Et surtout, avez-vous envie de poursuivre l'aventure de cette co-création? Et je voudrais aussi que l'on revienne chemin faisant, dans cette discussion sur les coulisses de cette co-création. Je parlais des résultats, mais avant d'arriver aux résultats, ce parcours a peut-être été semé d'embûches, de difficultés, d'errements, aussi d'incompréhensions entre artistes et chercheurs, entre institutions partenaires. Quels leviers pouvons-nous actionner aujourd'hui pour promouvoir, continuer à promouvoir et à défendre ce domaine en pleine émergence de la co-création, sachant que intellectuels, chercheurs, artistes, nous sommes tous des créateurs et créatrices. Alors nous allons commencer justement avec les femmes créatrices intellectuelles et notamment donc avec Marilène Libert, qui est donc sociologue, professeure en études du genre à Genève et qui était résidente l'année dernière ici même. Vous avez longtemps travaillé, depuis longtemps vous travaillez sur les violences contre les femmes dans l'espace urbain. En particulier, vous êtes intéressée au sort des prostituées, notamment chinoises, dans l'espace parisien. Ce qui vous a amené petit à petit donc, à réfléchir à la question de la mixité, évidemment, de l'espace urbain. Et vous avez élaboré avec une chorégraphe, Annick Charlot, je ne sais pas si elle est dans la salle, malheureusement, non, vous avez élaboré une déambulation urbaine pour réintroduire cette question de la mixité et réintroduire même de la mixité pour favoriser la réappropriation de l'espace urbain par les femmes, par le corps des femmes, mais peut-être pas que par les femmes. Alors on va peut-être voir quelques images de cette déambulation urbaine que vous avez créée en mai dernier.
Dans l'espace public aujourd'hui, chacun a une place, n'est-ce pas ? Égale ?
Les femmes occupent les espaces publics, elles ne peuvent certes pas y être de la même façon que les hommes, mais elles sont présentes.
Il y a dans la rue des femmes seules qui ne vendent pas leur corps, ni ne l'exposent. Elles veulent juste être là.
Évite de te mettre dans des situations à risque. Calcule ton itinéraire. Ne t'arrête pas. Ne souris pas.
Tous les spectateurs sont au casque. Tous les spectateurs vont suivre le spectacle en étant directement au cœur d'un espace sonore.
Je tourne la clé dans la serrure. J'ai coupé le gaz. Est-ce que j'ai coupé ce foutu gaz ? J'ai mis où les clés ? J'ai mes habitudes, j'ai des achats, j'ai tes achats, j'ai ses achats. Je suis en charge, je suis chargée, je me suis chargée, je me suis souciée. Je m'en soucie, je suis en souci, je me suis coincée. J'ai prévu ton planning, j'ai prévu ton programme, j'ai prévu mon programme, j'ai prévu leur programme. J'ai prévu mon programme au gramme près, j'ai programmé mon organe. Je me suis accordé 2 minutes de vagalame, j'ai tout prévu. J'ai organisé mon avenir, j'ai organisé ton avenir, j'ai organisé leur avenir. T'as appelé, je suis venue, j'ai appelé, t'es pas conscient.
Quel timing. Merci beaucoup d'avoir respecté cette contrainte. Alors, Marilène, ce projet donc, s'appelait Public C.Q.U.E.S. Quelle est donc la place des femmes dans ce projet que vous avez élaboré avec la compagnie ACT et Annick Charlot ?
Ben en fait, peut-être qu'il faut remettre les choses dans un autre sens. Hein. C'est moi qui ai eu le privilège d'avoir vu mes travaux réappropriés par la compagnie ACT, donc la chorégraphe Annick Charlot qu'on voyait tout à l'heure, et l'artiste numérique Pierre Amoudru, qui sont venus vers moi en me disant que en fait ils avaient lu un article que j'avais, un de mes tout premiers articles à vrai dire, un article que j'avais écrit en 2002 et dans lequel, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, je travaillais sur cette question des violences faites aux femmes, violences faites dans les espaces publics, et où j'essayais d'élaborer, hein, ou en tout cas de mettre en évidence cette dimension genrée des espaces publics, en montrant que les femmes, pour pouvoir allier à la fois le risque qu'elles percevaient avec ces espaces publics et leur désir d'autonomie, étaient amenées à mettre en place des stratégies que je décrivais. Et donc, Annick Charlot est venue vers moi en me disant, ben voilà, nous sommes en création. Nous avons commencé à travailler avec cet artiste numérique, mais également avec un compositeur, Pierre-Adrien Théo, et avec une danseuse, Sarah Schlauchy, ce projet public dont j'aimerais vous parler, parce qu'il est vraiment, ça a été une révélation pour moi de lire votre article. Alors, je dois remercier là, ici, j'étais à l'IEA, je ne savais pas très bien quoi faire, j'avais pas l'intention de partir en vacances, hein, comme ce physicien qui a fait de la biologie, et donc je ne savais pas très bien quoi faire de cette danseuse, à la part le fait que j'avais regardé sur Internet son travail qui m'avait complètement fascinée dans la mesure où c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible à repousser les frontières, repousser elle-même les frontières de sa discipline puisqu'elle s'intéresse depuis toujours aux espaces publics, qu'elle s'intéresse depuis toujours à danser dans l'espace urbain. Et qu'elle a elle-même créé des pièces qui sont fantastiques, avec un souci toujours de production collaborative, dans la mesure où elle travaille toujours avec des habitants et des habitantes qu'elle appelle des complices. Il y en a quelques-uns dans la salle aujourd'hui. Et donc, j'ai été très intéressée par cette rencontre, tout en lui disant, vous savez, nous, les sociologues, non, moi, j'ai jamais pensé travailler avec vous. Et donc, je remercie ici, évidemment, Sadi et l'équipe de l'IEA, qui, eux, m'ont dit, mais en fait, on pourrait avoir une résidence. On pourrait vous offrir, finalement, une résidence avec la compagnie ACT, avec moi, pour pouvoir pousser plus loin cette question. Et donc ça nous a amené à travailler ensemble. Au moment où Pierre et Annick sont arrivés vers moi, ils avaient déjà commencé ce processus de création. Ils avaient beaucoup travaillé justement sur cette question de la dimension genrée des espaces et de ces questions de stratégie des femmes, d'évitement. Une des premières scènes qu'on voyait, hein, c'est la fameuse scène de la croix, comme on appelle, où effectivement on est amené finalement à éprouver ce que beaucoup de femmes avaient décrit lorsque je les ai interrogées, hein, ces formes d'obstacles, ou en tout cas de contraintes qui pèsent sur le fait d'être une femme dans l'espace public, le sentiment de peur qu'on peut éprouver. Et donc, comme entre le moment 2002, le moment où j'avais écrit sur ces questions, et aujourd'hui, eh bien, cette question de la dimension genrée des espaces publics a vraiment émergé comme un problème public. On a des politiques publiques sur ces questions. J'ai proposé en fait d'ajouter certains tableaux. Et les discussions qu'on a eues justement sur cette dimension des espaces étaient peut-être aussi de dire il faut aller au-delà simplement de cette question des violences, de l'évitement des violences, de la contrainte qui peut peser, mais aussi d'essayer de travailler davantage cette question sur la façon dont la division sexuelle du travail pèse aussi sur la mobilité des femmes, va les amener à avoir des mobilités beaucoup plus complexes et pas seulement une mobilité de la maison au travail et retour, mais une mobilité qui engage justement tout un travail, toutes les tâches de la division sexuée du travail. Et donc, c'est ce qu'on voyait dans le film là. On a travaillé sur la notion de corps encombré, c'est-à-dire un corps qui est élargi, un corps qui porte des sacs, qui porte des personnes, qui pousse des personnes. Évidemment, des tâches que tout un chacun peut ou pourrait accomplir, mais qui sont majoritairement accomplies par des femmes.
Oui, on entend très bien et on voit cette charge mentale telle qu'elle est chorégraphiée. Ce qui est tout à fait remarquable dans ce projet, c'est comment effectivement vous avez dépassé la question de la dangerosité de l'espace urbain qui a été beaucoup travaillé par exemple par le programme Jean Réville ou par Human Ability qui dresse un panorama des politiques publiques genrées en ville, aussi bien à Sydney qu'à Paris, etc., etc. Et là, il y a la question donc de l'appréhension de l'espace urbain par un corps en mouvement, mais un corps qui qui recrée la contrainte qui pèse sur le corps au quotidien pour ces femmes. Le point sur lequel je voudrais revenir maintenant, c'est que vous avez souligné en passant comme ça, mais pourtant c'est essentiel, l'importance du lieu d'accueil de la résidence croisée. C'est que pour échanger, il faut d'abord pouvoir se rencontrer, expérimenter et avoir du temps. Et l'IEA est un de ces rares lieux ou institutions qui offrent cet espace d'échange, de friction aussi, et d'apports croisés. Mais ensuite, vous n'étiez pas que ce petit groupe de chercheurs et artistes. Comment avez-vous sollicité le public pour participer à cette marche? Et avez-vous eu des retours ensuite de ces gens qu'on découvre interloqués par ce spectacle urbain d'un nouveau genre?
Alors, comment nous avons communiqué? Nous avons bénéficié, là encore, des compétences de l'IEA, hein, qui, bien évidemment, ont fait la communication. Alors, bon, une chose qui est importante, c'est vrai qu'on a fait une séance de présentation, ici même, où on a justement essayé de recruter des complices. Parce qu'un des enjeux importants pour cette présentation, ou en tout cas pour cette déambulation, c'est justement d'avoir une vingtaine de personnes qui ont non seulement participé au processus de recherche, ou en tout cas, comment mettre en émotion, on parlait des émotions, hein, c'est vraiment ça, comment mettre en sens, comment mettre en émotion toute cette dimension dont justement je pouvais parler davantage en termes sociologiques, en mobilité, chaîne de mobilité complexe. Comment est-ce qu'on met ça en sens, en émotion, comment est-ce qu'on le met également, enfin, cette dimension qui, moi, m'échappe passablement, mais qui était centrale pour les deux artistes avec lesquels j'ai travaillé, qui était la dimension esthétique. Hein. On est quand même dans une déambulation qui doit saisir le public. Donc il y a eu tout ce travail qui a été de faire venir des complices. Le complice, dirait Annick Charlot, est extrêmement volatile. C'est-à-dire qu'on leur demande de s'impliquer énormément. C'est-à-dire que c'était deux week-ends de 9h à 18h, samedi, dimanche et encore. Donc la plupart des gens disent « Ah ben oui, mais moi je peux venir une demi-journée, je peux venir... » Mais c'est vrai qu'on a créé un groupe qui est très fort aujourd'hui, je crois. En tout cas, ce qu'on a partagé était assez fort. Et les retours qu'on a eus, donc c'est quand même une déambulation sous casque. Il y avait près de 100 personnes qui duraient 1h30. Avec 10 tableaux différents. Hein. On partait de l'IEA et on finissait pas très loin, hein, à la place de la mairie du 4e. Et vraiment, les retours qu'on a eus sont extrêmement forts, extrêmement puissants. Il y a eu plusieurs personnes qui sont venues vers nous, vers moi, avec des larmes aux yeux, en disant que, bah, justement, cette expérience les avait profondément troublées. Il y a eu des hommes aussi, puisqu'on parlait avant tout des expériences, on parle de genre, mais en fait on parlait des femmes. Des hommes aussi qui ont dit à quel point ça les avait troublés. Sadi même, qui m'a dit à quel point ça l'avait troublé, cette expérimentation, tout d'un coup, cette démarche sensible qui nous amène à essayer à la fois de façon complètement sensitive et par tout le travail qui a été fait à l'écoute, c'est-à-dire que on parlait d'artiste numérique, je savais pas très bien ce qu'était un artiste numérique avant de le rencontrer, mais c'est-à-dire que lui va travailler sur des sons, alors il y a la musique faite par Pierre-Adrien Théo qui est très belle, mais il y a également tout le travail qui est fait sur des mots, sur la façon. Donc on a beaucoup travaillé des textes aussi, on a fait beaucoup d'enregistrements. Pour pouvoir justement avoir 1h30 de bande-son qui accompagne la déambulation.
Ce qui est intéressant, c'est que vous jouez sur les émotions des complices et aussi sur le choc visuel des passants et passantes qui vous découvrent. Preuve du succès de cette expérience, vous allez la reproduire à Genève. Et là, ça va décoiffer aussi les Genevois et Genevoises. On poursuit la discussion autour des femmes et quelles femmes avec Adam Franck, avec lui en tant qu'il est spécialiste d'une poétesse absolument admirable, puisque son héroïne, c'est Gertrude Stein, n'est-ce pas? Oui. Bon. Donc, Adam Franck is professor in the Department of English Language and Literature at the University of British Columbia. After your essays on Edgar Allan Poe and also the poetics of Henry James, Andy Warhol, if I think, and also Gertrude Stein, you're developing a new project called Radio Freistein, yes, a collaborative sound project. And the first pivot is a radio concert created last year called What Happened?
Yes? It's the last one.
Right? The last one! Oh, I'm sorry for the mistake. So, What Happened? Let's watch the video if you want. Okay.
A five-act play.
So we're doing this project here at the Institute. It's part of a larger project called Radio Free Stein, where I'm taking about 10 of Gertrude Stein's plays, and I'm working with a number of different composers to create interpretations of them in performance. So Stein's theater is very interesting because it rejects all sorts of conventional elements of theater. There's no story. There don't appear to be any characters. It's hard to know what a given dialogue, whether it's dialogue or stage direction or anything else. So they pose a lot of challenges to interpreters. What are we supposed to make of this? How are we supposed to put them on? And Stein herself did want them to be played. She did imagine that they could be performed.
I think What Happened, a play, so the a five-act play, by Gertrude Stein is an immensely complicated text, even though it's very short. It's only, 4 or 5 pages. But it's the structure is immensely complicated, I find. Each of the 5 acts is very, very different. And every scene, every sentence in it has its own particularities. And I tend not to work in a, let's say, linear improvisational way or something. I tend to work in a trying to find structures that accommodate all of the phenomena that happen in the text.
So for this project, the performance is really part of the research, because in order to interpret Gertrude Stein's plays, the premise of the project is that I have to kind of undergo the experience of trying to stage them in some way. And so through my experience of staging it, I will then learn things that I can then represent in my writing.
In a book I wrote called How to Write, I made a discovery that sentences are not emotional, and that paragraphs are. And now I have found out a fundamental thing about play.
Je rappelle que Gertrude Stein est vraiment une figure des relations artistiques transatlantiques, et il n'y a pas que Jim Morrison qui est enterré au Père-Lachaise, mais aussi Gertrude Stein. Pour l'anecdote des femmes dans la ville et aussi dans les espaces de silence de la ville. Alors, oui, quand même. Alors, Adam, how did you choose the ensemble Daedalus?
I didn't.
Oh, chose you.
The composer, Samuel Vrieson, was connected with them, and so he asked them whether they would be interested because he liked their work, their performances, and they agreed.
What a good news, artist readers! It's wonderful. So, to what extent do you better understand now Gertrude Stein's works after this experience?
I have many more things to say about them than I used to.
Okay.
Maybe what I'll do. Can I read what I have?
Of course.
Because I prepared a little thing, and then I'm hoping that it will contain some
5
answers.
5 acts. Just take your time.
So the radical modernist writer Gertrude Stein composed her first play in 1913 called What Happened, to 5-act play. In the radiophonic musical interpretation that my collaborators and I developed and presented here last summer, right in the middle of the canicule, What Happened becomes a piece of meta-theater that depicts the experience of writing a play. As readers of Stein know, her work is not mimetic. Her plays rarely evoke another time and place through imitation of a fictional setting in which characters act. So they're anti-naturalist, and they're important for the tradition of anti-naturalist theater in the 20th century. Can I? Oh, I'm sorry. I will speak more slowly. In her lecture plays, which we used excerpts from in between the acts of the performance, so we integrated basically the lecture plays or excerpts from it with the first play called What Happened, she says, "I remember very well the first one I wrote. I had just come home from a pleasant dinner party, and I realized then, as anybody can know, that something is always happening. But what happens in the play is not the party itself. And she doesn't choose narrative to communicate what happened. She seeks a different compositional method that resembles portraiture." So here's another quote from the lecture. "I had, before I began writing plays, written many portraits. I had been enormously interested all my life in finding out what made each one that one. And so I had written a great many portraits. I came to think that since each one is that one, and that there are a number of them, each one being that one, the only way to express this thing, each one being that one, and there being a number of them knowing each other, was in a play." So for Stein, plays are essentially experiments in groups. If portraits are for knowing individuals, plays for her are for depicting a number of persons knowing one another, as she puts it. So it's a kind of an epistemological form for her. And so in the Radio Free Stein Project more generally, I've interpreted a bunch of Stein plays as reflexive experiments in audience and in group psychology. The theoretical or conceptual approach that I use comes from affect and object relations theory, especially the work of a psychoanalyst named Wilfred Bion, who was Samuel Beckett's analyst in the 1930s, and so he might already be important for the history of modernist theater. And he coined the phrase group therapy to name not the therapy of the individual in a group, but the therapy of the group as such. This conceptual material, which I'm not going to get into here, lurks in the background of the project. And it prompts the guiding questions: how do Stein's plays seek to know and depict group relations without story? What affect dynamics are being explored, and how can we think about them? So for any given play, these questions lead to a host of other questions. How many voices do we hear in these plays? Does the play have a structure? Is there some kind of situation or a setting? And to begin to answer these questions, what I've always done is I hold a workshop, a brainstorming workshop, with a number of readers, good Stein readers, as if somehow it takes a group to arrive at a sense of the play's group. It's a kind of, I think of it as a kind of reenactment, a collaborative reenactment. The experience of being almost comically mystified before arriving at a stable sense of Stein's work has been typical of the workshops that I've held. Participants don't always agree about how to answer the questions, which has been very interesting to me. The disagreements have been significant sometimes. As Bion explains, groups are inevitably frustrating for the individuals comprising them, because they're a result of regressive fantasy. But at the same time, groups are necessary for some work to get done. Some tasks are necessarily group tasks. So understanding Stein's plays, for me, is a group task. And I approach them not as puzzles to be solved, but as invitations to come up with creative ways to move from text to performance, or from reading, on the one hand, to something like sonification or radio. So I found working with composers helpful when, as Samuel Vreeson put it, they can develop musical structures that can accommodate all the phenomena that happen in the text. So I like that way of putting it. The composer Virgil Thompson, who was one of Stein's earliest musical interpreters, observed many years ago that Stein's writing needs musical reinforcement, but then he adds, "I do not mean that her writing lacks music, I mean that it likes music." And I'm trying to unfold what that might mean. How is Stein's writing helped by music? How is it like music? And how is it not the same as music, obviously? And if I've enlisted composers and sound artists in the project, it's because musicality helps to accommodate the movements in Stein's writing between verbal and intonational affective contours and sense making. So just to let you know, with the help of about 6 composers and a bunch of directors and performers in Vancouver and in New York City and in Paris now, I've recorded or performed 10 of Stein's plays. She wrote about 100, but I think I'm going to stop at 10. Probably the largest production was the one in New York City, which was Daniel Thomas Davis's chamber opera called 620 Outrageous, 3 Gertrude Stein plays in the shape of an opera. And all of this recording is now available on the Radio Free Stein website, which is simply radiofreestein.com, and you can listen to them there if you wish and see some of the audio and the video that's connected to the project. I'm hoping to bring the Paris show that we did here to Canada. The Daedalus Ensemble and Aurélie Lehrmann are interested in coming next fall, and I just have to raise a little bit of money. And I'm, of course, preparing writing. I've been writing about this project for a number of years, and I'm preparing a book manuscript based on these experiences. From my perspective as a literary critic, the project's question really is, what can I think and say about Stein's plays and poetics after undergoing the process of staging them that I couldn't say before? What emerges from a critical perspective given this experience?
Thank you. Good luck for the tournée. thank you so much for the recreation of the creation. I have just one question, yeah. Perhaps a very hard question.
Okay.
To whom belong this creation? To whom?
The recordings?
Yes, the project, yes.
Oh, it belongs to me and the composer and the performers in the case of this one.
Mm.
And sometimes it belongs to the director as well. If they've had a kind of a, like for the chamber opera, the director was very
involved.
Because,
you know, art is money.
Well, not this art.
Thank you. Alors, Gertrude Stein, peut-être le fil rouge entre ce que vient de présenter Adam Frank et ce que va nous présenter maintenant Sylvain Guillot. En effet, puisque Gertrude Stein a été fellow au Radcliffe Institute, à Harvard, et Sylvaine Guillot a elle aussi traversé l'Atlantique, alors dans tous les sens, on ne sait plus maintenant, enfin, après ses études à Normale Sup, elle est désormais professeure à Harvard en art du spectacle, où Sylvaine, vous dirigez également la troupe, vous pilotez le programme également de Big Data sur les registres de la comédie française, et par ailleurs, vous menez un projet personnel de recherche et de création sonore, orale, performative, en tout cas, autour du texte racinien. Et vous en avez présenté quelques jalons au TNB, donc à Rennes, l'année dernière, autour de la figure d'Andromaque, qu'on va entendre, enfin, on va entendre la voix d'Andromaque dans tous ses états, telle qu'elle est incarnée, entre autres, par Sylvaine.
Alors en fait, je propose qu'on commence pas par l'extrait
d'accord,
tout de suite.
Comme vous voulez, chère Sylvaine. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Juste peut-être pour dire un mot de ce que vous évoquiez, Mélanie, cette espèce de manière dont je circule dans cet interstice entre recherche et création de manière différente depuis plusieurs années. Et je dois dire qu'effectivement, aujourd'hui, je ne savais pas très bien à quel titre parler, avec quelle casquette parler. Comme membre du comité scientifique et de facto témoin assidu des rencontres recherche et création qui se tiennent donc chaque année à Avignon depuis 5 ans, ou bien comme, effectivement, chercheuse et praticienne ou chercheuse praticienne, travaillant comme historienne du théâtre sur la tragédie du XVIIe siècle, qu'il m'arrive aussi parfois de monter et d'interpréter moi-même. Et enfin, autre manière de circuler dans cette zone intermédiaire comme formatrice et enseignante, puisque je co-dirige depuis plusieurs années deux séries d'ateliers laboratoires, transatlantique, donc franco-américain, l'un sur performer l'archive, qui est destiné aux étudiants en art du spectacle et en communication, et l'autre sur, en français, pratique artistique et enquête critique, qui est destiné à des artistes en formation, désireux de faire œuvre théorique en même temps qu'œuvre pratique. Donc, je me trouve dans cette espèce d'espace multiforme où, à la fois, j'écoute dialoguer des artistes et des universitaires qui posent les mêmes questions, mais par des voies différentes. Je fais travailler ensemble, dans le cadre de ces ateliers, des artistes, des chercheurs et des développeurs numériques pour voir ce que cette collaboration produit comme résultat pratique, comme objet, chacun dans leur champ. Et je combine moi-même l'enquête historienne et la pratique théâtrale pour aborder un corpus dramatique ancien. Donc je procède à une sorte de co-création avec moi-même dans cette perspective-là. Alors, ce qui m'est apparu et ce qui apparaît aussi depuis le début de la journée, de manière relativement évidente, en tout cas au filtre de cette triple position que j'occupe depuis une dizaine d'années, c'est la difficulté de modéliser, la difficulté de systématiser, la difficulté de circonscrire le spectre de tous les rapports possibles entre recherche et création, qui sont deux territoires poreux mais différenciés, avec des temporalités différentes, avec des modes de formalisation différentes, la plupart du temps, ça changera peut-être, avec des publics et des visées différentes. Difficulté donc de modélisation. La recherche et création ne constituent pas un champ stable et défini, mais plutôt une sorte de constellation de synergies possibles. C'est un ensemble, en fait, de projets ou de points de contact qui se font. Et cette difficulté de systématisation explique d'ailleurs probablement la difficulté du lieu institutionnel. Il n'y a pas de lieu non plus pour la recherche et création, ou alors il y en a plusieurs, et y en a différents. Alors il y a trois grandes manières, et en tout cas c'est la manière dont j'articule dans ma pratique, et puis je vais en arriver très concrètement à cette présentation au TNB, trois manières d'articuler recherche et création. Grande manière, multiple, mais la première, c'est de faire de la recherche un combustible, un matériau pour la pratique artistique. Pratique artistique qui s'empare de la technique ou du contenu de la recherche pour la transposer dans le médium qui est le sien. Et ça, ça donne dans le champ de la recherche ce qu'évoquait Saadi tout à l'heure, à savoir de nouveaux formats de dissémination du savoir académique. Et ça donne dans le champ artistique un art documenté, dont on a discuté tout à l'heure en début d'après-midi, ou un art techniquement, technologiquement innovant. Deuxième articulation possible, c'est que la création fonctionne comme terreau ou comme terrain d'une recherche qui n'émergerait pas autrement. La création apparaît alors comme une sorte de... Enfin, pas comme une source, comme la source et l'expression d'un savoir perceptuel, expérientiel ou technique qui lui est propre et qui n'a pas besoin, en quelque sorte, de l'été d'une formalisation académique parallèle ou subséquente. Puis enfin, la troisième manière, c'est le simple télescopage, et je reviendrai là-dessus, l'interférence, sans collaboration ni inspiration directe entre les chercheurs et des artistes, mais une manière d'aborder avec des modes opératoires différents, des questionnements communs, on l'a vu tout à l'heure sur la question de la négociation ou la question de la guerre. Alors mon travail de chercheuse et de praticienne se tient un peu à cheval entre ces trois manières, hein, faire de la recherche un matériau, faire de la création un terrain, et puis faire se télescoper sans chercher nécessairement les interférences. Un mot sur mon objet de recherche. Je travaille donc sur la représentation, en partie sur la représentation du corps dans le théâtre de Racine, qui est un théâtre qui a été longtemps considéré par la tradition critique comme par la tradition de représentation comme un théâtre du langage. Je vais assez vite. Ce qui m'intéresse pour ici, c'est que mon travail constitue un cas où l'objet de recherche est une matière sensible. Le corps, l'histoire des émotions, l'histoire des affects. Arlette Farge, historienne des sensibilités, hein, rappelait récemment que quand les affects ont fait irruption dans le champ des sciences sociales et des sciences humaines, ça a, cette sorte de nouveau paradigme a provoqué une énorme méfiance. Ce qu'évoquait également tout à l'heure Patrick Simon, hein, méfiance à l'égard de cette émotion considérée comme un sentiment hors intelligence. quelque chose qu'on ne pouvait pas capter par intelligence, et aussi hors restitution, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas restituer par un discours universitaire. Alors aujourd'hui, cette revendication de faire une histoire sensible du sensible est tout à fait validée et se multiplie dans divers lieux institutionnels. On pourra revenir sur cette question. Les entreprises, justement, de approprier ce territoire de l'histoire au niveau sensible par la fictionnalisation, l'incarnation des webdocs.
Et vous, comment faites-vous alors avec Racine?
Alors, comment je fais avec Racine? Donc, comme vous le disiez, donc j'y arrive. J'ai eu l'honneur l'année dernière, alors que j'étais résidente à l'IEA, d'être invitée au TNB.
Quelle promotion l'année dernière,
Double. Double effet.
Ah, c'est formidable.
Donc au Théâtre National de Bretagne, où j'ai été invitée par Patrick Boucheron, qui dirige le cycle Rencontrer l'Histoire, qui est un cycle de rencontres initiées par le directeur Arthur Noziciel, qui donne carte blanche à un intellectuel invité sur une période de 1 à 2 années pour organiser des soirées plus ou moins en lien avec la programmation. Patrick Boucheron m'a alors donné à son tour carte blanche pour, m'a-t-il dit, faire quelque chose sur Racine, puisque était programmé au TNB Iphigénie. Alors ma thèse et ce que je voulais montrer, c'est que le corps tel qu'il est dit et montré chez Racine fait trembler le grand récit du pouvoir de la société d'Ancien Régime, pour le dire rapidement. J'ai alors opté pour un format qui est très courant chez les plasticiens américains, celle de la lecture performance, qu'on traduirait en français par conférence spectacle, mais le titre est moins noble, où il s'agit, dans la lecture performance, d'entrelacer une position de parole fictionnelle et une prise de parole critique, théorique. Alors, très simplement, on va pouvoir peut-être en montrer un exemple. J'ai choisi d'alterner le discours critique de commentaire de l'universitaire que je suis et les ressources, disons, sensorimotrices de la scène théâtrale, en incluant, avec mon expérience de praticienne, scénographie, sonographie, mise en espace et déclamation. Avec l'idée qu'il s'agissait bien de plusieurs choses, mais on pourra peut-être en parler après.
Nous parlerons après.
L'idéologie de la pièce ne fait donc aucun doute, et tout laisse à penser qu'elle ne fait que dorer plus encore le blason de la monarchie.
Et ce que tu suggères, c'est qu'en fait, il faut y aller voir d'un peu plus près.
Oui. Prenons l'acte 3. L'acte 3. Nous sommes au centre de la pièce, juste avant l'entrée en scène d'Alexandre.
Cléophile, demande.
Vous venez de voir Alexandre le vainqueur?
Pas petit point.
Le portrait du roi en vainqueur reste inachevé. Et le songe extasié d'Hermione s'interrompt. Pour trouver une continuation tout à fait paradoxale à l'acte suivant, dans le fameux songe d'Andromaque, qui fait surgir, à l'inverse, la barbarie du soudard. Une nuit éternelle. toi, virus. Les yeux étincelants.
Sylvaine, vous voulez ajouter un dernier mot sur vos identités multiples, sur cette multipolarité?
Je crois qu'il y a un récit facile au fond de cette espèce de cross-fertilisation entre la recherche et la création chez les praticiens-chercheurs, qui est au fond un récit dans lequel je ne me reconnais pas du tout. C'est-à-dire que je dois avouer que quand je mets en scène d'autres, donc des pièces complètes, hein, je ne transpose pas, je ne traduis pas ma recherche, même quand je mets en scène Racine. Et inversement, quand je fais de la recherche, je travaille dans les archives. Et je ne passe pas par le détour heuristique la création et de la scène. Et je crois que cette expérimentation, qui était une manière de réfléchir à un nouveau mode d'adresse, à une nouvelle manière d'exposer le savoir et la pensée académique, c'était vraiment une manière de créer un troisième lieu. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais invitée ici par un universitaire dans un théâtre et que j'ai été invitée à présenter ce spectacle en avril en anglais au Seagal Center à New York, où là je suis invitée par des gens de théâtre qui m'invitent dans ce lieu qui est à l'intérieur d'une université.
On est perdu ou retrouvé, je ne sais pas, après le quatrième mur, le troisième lieu. C'est assez magnifique et on ne peut que souhaiter qu'il y ait de plus en plus de ces lieux innovants. Alors évidemment, le public est peut-être désorienté, ou en tout cas les institutions, nos gouvernants académiques sont parfois désorientés par les profils qui s'émancipent des rails académiques, disciplinaires classiques. Mais il faut tenir bon, comme vous le faites, Sylvaine. Et on a un autre spécimen qui s'est approprié l'outil artistique. Donc, avec Cédric Parisot, vous êtes anthropologue. Alors, je ne dirais pas que vous avez découvert les artistes en pilotant le programme artistique et scientifique de l'Institut d'études avancées d'Aix-Marseille, mais ce cheminement institutionnel vous a peu à peu orienté vers de nouvelles formes de transmission du savoir. Vous êtes un spécialiste des zones de conflit, notamment de la situation de conflit israélo-palestinienne. Et peu à peu, cheminant avec ces artistes en résidence à l'IREMA, peu à peu, votre... Pardon ?
L'IMERA.
À force de changer de casquette, on en devient à l'IMERA. Peu à peu, vous avez aussi eu envie ou la tentation d'inventer de nouvelles formes, de nouveaux dispositifs pour transmettre votre recherche ou pour questionner vos objets. Et vous vous êtes plongé dans l'univers du jeu vidéo qui est devenu votre nouvelle maison, ou l'une de vos maisons.
Oui, l'une de mes maisons plutôt. Alors, effectivement, je vais vous parler d'un jeu vidéo aujourd'hui, mais je développe des expérimentations art-sciences aussi dans le spectacle vivant, dans le net art, etc., donc dans différents types de pratiques artistiques. Alors, je suis à l'IREMAM, qui est l'Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, à Aix-en-Provence, mais j'ai été aussi directeur du programme art-sciences et société à l'IMERA, et c'est pour ça que très souvent, on me demande si je ne suis pas à l'IMERAM. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Crossing Industry, que j'ai élaboré depuis 2013 avec Douglas Edwick Stanley, qui est un artiste numérique américain, et Robin Moretti, qui est un jeune artiste français sorti de l'école d'art d'Aix-en-Provence. Et c'est un jeu que nous avons, enfin, je veux dire, un processus que nous avons amorcé dans le cadre d'un programme qui n'était pas, alors, pour le coup, à l'IMERA, qui est né à l'IMERA, mais qui était l'Anti-Atlas des frontières, qui est un programme où on a associé des artistes, des chercheurs pour travailler ensemble. Écoutez, sinon, c'est pas grave, vous mettez le PowerPoint et puis je ferai pas de... D'accord. Donc le programme Anti-Atlas des frontières qui articule des travaux d'artistes, de chercheurs, de militaires, de gens qui viennent de Thalès, de différents types de personnes pour essayer de penser de manière un peu inédite et renouvelée les mutations des frontières au XXIe siècle et les mutations des espaces de nos sociétés contemporaines. Alors, à travers cet exemple, ce que je vais essayer de faire, c'est d'envisager dans quelle mesure, enfin avec vous, comment l'intégration de la création artistique à l'intérieur du travail de recherche d'un anthropologue, c'est-à-dire à l'intérieur même du processus de recherche, peut apporter un certain enrichissement au niveau du processus de réflexion sur nos pratiques d'écriture en tant que chercheur, au niveau de nos objets d'études et de la relation qu'on entretient avec nos objets d'études, et puis aussi pour ouvrir de nouvelles pistes de recherche. Alors l'historique du projet, donc ce projet démarre en 2013, on a eu deux versions. Je pense qu'il vaut mieux que vous mettiez le PowerPoint que je vous ai envoyé, et puis normalement j'ai l'ensemble des éléments pour pouvoir appuyer ma démonstration. Donc deux versions, je pense que ça va s'afficher bientôt à l'écran. Une première en 2013, qui restait inachevée, inaboutie, qui était un premier échec, mais un échec tout à fait intéressant. Et la deuxième, en 2017, qui se présente sous la forme d'un prototype jouable, d'une bonne heure. Et cette seconde version, elle met en scène un anthropologue français qui part d'une ville israélienne pour se rendre dans un bourg palestinien de l'autre côté du mur de séparation, en Cisjordanie, et qui part pour faire une recherche sur la collecte des artichauts sauvages. Alors évidemment, l'enquête tourne court et ses informateurs... Donc là, vous avez mis... alors, est-ce que vous pouvez passer la slide suivante, s'il vous plaît ?